Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Pour présenter l'émission ce soir, donc Didier et Laurent et Claude à la technique. Donc l'émission de ce soir, elle est consacrée à la question des inégalités en Île-de-France. Donc on sait que la région Île-de-France est la région qui concentre à la fois le plus de richesses, mais également là où on va trouver des poches de, enfin, ou des territoires parmi les plus pauvres de France, ou du moins de la métropole. Donc dit autrement, c'est aussi celle où on va trouver les plus grandes inégalités en matière de revenus, mais peut-être aussi en matière d'éducation, de logement, de santé. Donc on va traiter ce sujet sous trois entrées. Donc tout d'abord, nous demanderons à nos invités de dresser un état des lieux des inégalités en Île-de-France. Quelles sont-elles, pour que nous puissions les comprendre. Ensuite, nous verrons avec eux comment cette question est prise en compte dans les projets d'avenir qui concernent l'Île-de-France, et notamment le Grand Paris, qui vont structurer l'espace francilien pour les années à venir. Et puis nous nous interrogerons sur comment procéder pour réduire ces inégalités, quelles sont les politiques ou les initiatives de lutte qui sont mises en place pour réduire ces inégalités. Donc pour discuter de ces questions, la Fondation Copernic reçoit aujourd'hui deux spécialistes. Donc Mariette Sago, vous êtes démographe et chargée d'études à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et puis Richard Galissier, donc vous êtes délégué régional Île-de-France de ATD Carmonde, donc une association qui milite et qui assure un soutien aux populations les plus pauvres. Et donc vous êtes membre du Césaire et notamment au titre des associations de solidarité.
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, mais aussi sur Radio Fréquence Paris Pluriel, mercredi prochain à 7h du matin. Donc pour commencer, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, je voudrais d'abord qu'on brosse un peu pour nos auditeurs le tableau des inégalités en Île-de-France. Peut-être avec vous d'abord, Mariette Sago, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama assez concis sur ce tableau des inégalités?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, la région Île-de-France est une région riche. Il y a 35% des cadres vivant en Île-de-France, en France, qui habitent en Île-de-France, parce que c'est une région qui concentre beaucoup de fonctions de commandement. Et donc, du fait qu'il y ait beaucoup de riches, il y a forcément des inégalités qui sont plus fortes qu'ailleurs. Alors, par exemple, pour vous donner un chiffre, si on compare les niveaux de vie des 20% des personnes les plus riches et des 20% les personnes les plus pauvres, l'écart est de 1 à 8. On vit 8 fois mieux, on pourrait dire, quand on a fait partie des 20% les plus riches que si on fait partie des 20% les plus pauvres.
Et c'est beaucoup plus qu'au niveau français?
Alors là, j'ai pas exactement le chiffre pour la France, mais c'est plus que pour le niveau français. Alors, ce qu'il y a donc, c'est que ces inégalités, elles sont croissantes, ça c'est moins enthousiasmant, et non seulement entre les franciliens, mais aussi entre les territoires. Donc déjà, entre les franciliens, pour vous donner quelques éléments chiffrés, par exemple, depuis la crise, pour voir l'effet de la crise, entre 2008 et 2011, les 20% des personnes les plus pauvres, leur revenu a baissé en valeur réelle, c'est-à-dire si on enlève l'effet de l'inflation, ils ont baissé de 5%. Alors que pour les plus riches, les 20% les plus riches, les niveaux de vie se sont un peu infléchis au moment de la crise, mais sont repris et en fait, globalement, leur niveau de vie s'est accru de 1,2%.
D'accord, oui.
Alors maintenant, si on regarde en bas la distribution des revenus pour les populations les plus pauvres, la pauvreté a elle aussi augmenté. Elle est passée de 12,1% à 13,5% en Île-de-France. Donc en fait, en Île-de-France, on a à peu près 1,6 million de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté.
D'accord.
Mais le seuil de pauvreté en Île-de-France, avec les chiffres que vous donnez, et par rapport au seuil français...
Parce que les chiffres de l'INSEE sont faits en référence au seuil de pauvreté national. Donc, pour vous donner une idée, le seuil de pauvreté est à 987 euros par mois, actuellement. Alors, si on compare avec le RSA, pour une personne seule. Le RSA, en comparaison, c'est 475 euros.
D'accord.
Alors, ce qu'on observe aussi, c'est une forte augmentation des populations qui sont couvertes par le RSA. Donc, de 27% donc en 4 ans. Donc, c'est quand même énorme en Île-de-France.
D'accord.
Voilà. Donc, maintenant, si je vous parle peut-être des populations les plus fragiles, ce sont les jeunes, les enfants. Donc, plus que les adultes, les taux de pauvreté des moins de 20 ans, c'est presque 20%. Et ce sont les jeunes adultes aussi. Donc, les jeunes adultes. Par exemple, les jeunes adultes, des 20-24 ans, leur taux de pauvreté, c'est 18,8%. Donc, presque 1 sur 5.
Ouais.
Alors que si on compare les personnes de plus de 65 ans, parce que maintenant les pauvres ne sont plus les retraités, les personnes de plus de 65 ans, leur taux de pauvreté c'est 6%, donc c'est 3 fois plus faible que les jeunes de 20-24 ans.
D'accord.
Donc la pauvreté maintenant est devenue plus urbaine, plus jeune, alors qu'avant c'était plus les retraités qui étaient touchés.
D'accord, c'est ce que vous constatez aussi, Richard Galissier, vous dans votre pratique chez ATD Quart Monde ?
Alors, chez ATD et dans l'ensemble des associations, je confirme la tendance à la fois sur les jeunes, très forte, et des jeunes sans revenus, sans rien. Donc, il devient de plus en plus complexe, et également donc des seniors, qui est très très forte. On peut creuser ces questions sur les causes, notamment, je tiens à souligner, il y a quelque chose qui devient extrêmement prégnant donc en ce moment, c'est la fracture énergétique, c'est-à-dire que quand vous rajoutez le loyer et les factures pour la lumière et le chauffage, mais vous reste donc quasiment plus rien. Enfin, c'est vraiment extrêmement difficile. Et il y a une tendance qu'on note également. Et malheureusement, la voie des visus, surtout donc dans Paris, c'est la très forte exclusion des hommes seuls, voilà, et qui monte vraiment donc en puissance. Mais au-delà de ces tendances, un peu chiffrées, il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficilement mesurable, mais qu'on ressent, c'est toutes les questions d'isolement et de délitement donc du lien social, c'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus seules et ont énormément de mal dans un contexte extrêmement difficile, le regard sur les autres, enfin on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais accentue donc la solitude et donc le délitement du lien social, ce qui a en fait un effet amplificateur de la pauvreté, parce que les gens ont plus de mal à trouver du travail, plus de mal à faire n'importe quelle démarche.
D'accord. Ce que vous nous dites, c'est que les inégalités sont donc quantitatives en termes de revenus, mais aussi en termes de lien social, quoi. C'est-à-dire que
tout à fait.
Le lien de solidarité, une fois qu'on est... l'absence de lien social favorise l'exclusion.
Tout à
et
fait.
L'inverse est également vrai.
Voilà. Alors, je ne sais pas si on a également donc insisté, mais la caractéristique de l'Île-de-France, c'est quand même, Mariette l'a dit, c'est le département le plus riche de France et le département le plus pauvre.
Bon. Les Yvelines d'un côté et les Saint-Denis de l'autre.
Oui,
Haute-Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc on va en parler. Mais
voilà.
Donc c'est la transition. Je redonne la parole à Mariette. Mais c'est caractéristique d'une région et justement de tout le travail actuel d'essayer de limiter les fractures.
Oui. Alors une dichotomie est-ouest
En fait, les grands contrastes, ils sont dans le centre de l'agglomération. Parce que dans le centre de l'agglomération, on a Paris d'un côté avec les Hauts-de-Seine, qui sont les deux départements les plus riches de France, donc avec les populations les plus riches qui sont vraiment là, le revenu moyen le plus aisé, enfin c'est bon, les départements les plus riches. Et puis par ailleurs, on a la Seine-Saint-Denis qui là est en haut du tableau pour le taux de pauvreté. C'est le département où le taux de pauvreté est le plus élevé de tous les départements français. Donc bien avant même le Nord-Pas-de-Calais auquel on pense.
Oui.
C'est une personne sur quatre qui est pauvre. Et par exemple, pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est 21%. Donc il y a quand même une différence. C'est aussi donc le revenu moyen le plus faible des départements français. Donc on est vraiment dans un cumul de difficultés dans ce département. Et pour vous donner une idée, si on compare les niveaux de vie entre les Parisiens et les séquano-dionysiens, qui sont les habitants de la Seine-Saint-Denis, l'écart de niveau de vie, il est de 80% en 2011. Donc les Parisiens, voilà, les Parisiens vivent en moyenne avec 80%, enfin des revenus moyens de 80% supérieurs à ceux des habitants de Seine-Saint-Denis. Et cet écart s'est creusé puisque il y a 4 ans, il était de 63%.
D'accord.
Donc on est dans tendance d'accroissement des inégalités.
Alors ce que vous nous dites, voilà, c'est que les inégalités augmentent entre les différentes couches de population et également entre
les territoires. Voilà.
D'accord. Malgré les interventions qu'ont fait l'État ou malgré les interventions des collectivités qui ont un rôle quand même correctif.
Absolument. Mais bon, ça montre, peut-être qu'on en reparlera après, c'est qu'aussi, il y a certains territoires qui ont des fonctions spécifiques. Et la Seine-Saint-Denis, elle est très contrastée. C'est un département extrêmement contrasté, qui à la fois est bien intégré dans la métropole en termes économiques, avec, on peut penser à Roissy, Marne-la-Vallée, la plaine Saint-Denis. On peut penser, il y a deux universités, il y a le campus Condorcet qui est en train de se construire, il y a le Grand Stade. Bon, c'est un département qui est économiquement bien inséré, qui s'en sort bien. Et par ailleurs, c'est aussi un département où se concentrent beaucoup de populations pauvres, mais aussi des populations qui viennent de l'étranger, qui viennent. Enfin, c'est un sas de transition pour ces populations qui commencent leur parcours par la Seine-Saint-Denis, donc un parcours d'intégration qui commence par la Seine-Saint-Denis. Et avant, c'était plus sur Paris, et on voit de plus en plus que ces débuts de parcours se font dans la Seine-Saint-Denis.
Vous citez effectivement l'opposition. C'est vrai, c'est classique aujourd'hui entre les Yvelines et le 92 et la Seine-Saint-Denis. Mais est-ce qu'il n'y a pas au sein même de Paris, est-ce qu'on ne trouve pas ces inégalités
bien
fortes
hein, qu'on, absolument. Qu'on, que vous citez? Absolument, elles sont très fortes. C'est en fait le département où les inégalités sont plus fortes.
Voilà, c'est ça l'idée. Hein, c'est que si on prend les inégalités comme marqueur, et qui est de revenus en particulier, c'est même au sein de Paris qu'on retrouve
absolument.
Les inégalités les plus importantes.
Absolument.
C'est ça,
absolument. Ouais. Absolument.
Et y compris, alors, si on reprend ce qui est du côté vraiment extrême pauvreté, quelques données dont on dispose montrent qu'en particulier, une grande partie des personnes sans domicile, je crois que c'est à peu près en gros la moitié, la moitié des sans domicile qui vivent dans la rue, pour ainsi dire, ou dans des abris de fortune ou des lieux qui ne sont pas propres à l'habitation, eh bien, ils sont sur Paris. La moitié sont sur Paris. Quoi. Donc on voit bien qu'on a là vraiment une concentration extrêmement forte de populations très très pauvres et de populations très très riches.
D'accord. Peut-être un constat, c'est quelque chose que vous vivez, vous voyez chez ATD. Est-ce que vous avez justement un mode d'intervention un peu variable entre les territoires. Vous avez adapté vos dispositifs entre les territoires où il y a quand même des points communs et donc vous allez intervenir de la même manière.
Alors, ATD n'a pas une vocation à avoir des dispositifs donc d'intervention. C'est plus une association et un mouvement militant. Qui lutte contre la grande exclusion avec les plus exclus. Voilà. Donc ce qui fait que notre ADN, je dirais, c'est de s'appuyer, c'est de faire avec les gens donc les plus démunis pour faire bouger les lignes et faire remonter faire modifier donc les choses. Par contre, au niveau d'autres associations plus importantes comme le Secours populaire, le Secours catholique qui ont vraiment des grosses structures donc d'intervention. Bon, enfin, l'autre, je prendrai qu'un chiffre, c'est pour montrer l'augmentation, je parlais de la fracture énergétique, ça c'est une donnée, mais quand vous prenez l'augmentation de l'aide alimentaire, c'est quand même plus 10% entre 2012 et 2013. Bon, et on n'a pas encore les chiffres entre 2013 et 2014, mais ça va pas être moins, voilà.
D'accord, ouais. Voilà. Ça c'est sur tous les territoires ou...
Oui, c'est global, voilà, donc il y a quand même... Donc un phénomène global donc de pauvreté, même si quand même on note que et on pourra peut-être en parler, mais que le plan pluriannuel de pauvreté qui a été lancé donc il y a 2 ans, il est très imparfait. Mais il semblerait quand même, d'après les premiers chiffres qu'on ait, qu'il ait quand même un peu servi d'amortisseur. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été encore pire. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Mais les premiers
c'est
chiffres.
Une politique est... régionale ou
Non, c'est... il était national. D'accord. Et il a été décliné régionalement. Il avait été présenté il y a un peu plus d'un an par le préfet Chérec, donc en Île-de-France. Et il a fait le tour donc de toutes les régions. Et donc il y a un certain nombre d'actions donc qui ont été mises en place. Voilà. Mais bon, et il, donc je ne connais pas la date, mais vous allez bientôt avoir le collectif Alerte qui va en publier donc un bilan. Voilà. Et en gros, donc la tendance, c'est que bon, il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites, qu'on peut améliorer, mais ça, on reviendra peut-être dessus donc à la fin de l'émission. Mais en tout cas, il y a voilà, il y a eu quelques petits effets. Donc c'est, voilà, enfin, je me répète, mais ça a été fait.
Ces effets, ils sont effectivement, enfin, en tous les cas, vous le dites, hein, notables sur le bas de la distribution des revenus, si on peut dire, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de distribution des revenus. Mmh. Mais en même temps, ce que vous avez dit, hein, c'est que les écarts continuent eux à s'amplifier. C'est-à-dire que on a quand même toujours de plus en plus en Île-de-France, et c'est vrai d'ailleurs dans l'ensemble du territoire. Métropolitain et en France ouais. Compris en métropole, les écarts de revenus ne font que croître et la crise elle n'a pas été, si j'ose dire, elle n'a pas porté sur les épaules de la même manière.
Hein. Oui, Marie.
Oui, je voudrais mettre un bémol parce que c'est vrai que les statistiques publiques, là, il y a un petit souci parce qu'au niveau national, on a des chiffres 2012, mais pas au niveau régional où on a encore les chiffres 2011. Or, il semble qu'en 2012, il y ait un amortissement, c'est-à-dire qu'il y ait une pause, on va dire. On n'est plus dans une augmentation des inégalités. Il y aurait un léger resserrement en 2012, voire en 2013, selon les estimations de l'INSEE, qui serait dû parce qu'en 2012, finalement, les revenus des plus aisés ont baissé, c'est-à-dire ce qui
essaie de monter de manière aussi
la hausse qu'ils avaient gagné en 2011, ils l'ont perdu en 2012. Pour différentes raisons. Et en 2013, en fait, c'est en plus... En 2013, en fait, il y a ce qui a été estimé par l'INSEE, c'est que les mesures fiscales qui ont été menées, donc le gel depuis deux ans, le gel des barèmes des impôts, la tranche supplémentaire à 45%, le plafonnement des effets du quotient familial, donc et j'en passe. Il y a donc toute une série de mesures et qu'en fait cet effet-là, donc selon les modèles du MICE, aurait tendance à resserrer un peu les inégalités parce que ça touche surtout les personnes aisées, même si ça touche aussi les classes moyennes. Mais en tout cas, ça touche pas les plus pauvres.
D'accord. Ok, donc un constat avec des inégalités qui augmentent malgré un coussin d'amortissement qui nous fait une pause vers l'année 2012. Donc en deuxième partie d'émission, on va s'intéresser au projet d'aménagement de l'Île-de-France et comment il a un impact sur la réduction des inégalités. En attendant, on va effectuer la première pause musicale de l'émission. Je vous propose d'écouter Nick Cave. Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée aujourd'hui aux inégalités en Île-de-France. Nous venons d'écouter Nick Cave, We Know Who You Are. Je vous rappelle que nos invités ce soir sont Mariette Sago, géographe à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, et Richard Galissier, délégué régional d'ATD Quart-Monde et membre du Césaire. Didier, pour la Minute Copernic.
Oui, effectivement, pour la Minute Copernic, on avait un petit peu abandonné hein, cette minute, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de vous présenter un petit peu les productions de la Fondation Copernic. Il se trouve que là, tout dernièrement, nous venons de publier, alors pas la Fondation Copernic en tant que telle, mais la Fondation Copernic au sein d'un collectif plus large d'organisations syndicales, où on retrouve pratiquement un nombre important dans les syndicales, la CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaire, et puis les syndicats d'avocats de France et les syndicats et le syndicat des magistrats. Et nous avions déjà présenté cette question qui avait été traitée par une note de la Fondation Copernic qui porte sur la répression syndicale, les discriminations syndicales en France. Il se trouve que nous venons, alors l'Observatoire en tant que tel vient de publier son premier rapport. Voilà, donc on vous invite évidemment à en prendre connaissance. Vous le trouverez sur le site de l'Observatoire de la répression et de la discrimination syndicale, qui est www.repression-syndicale.org. Et je pense que c'est tout à fait intéressant de regarder ce rapport. On y fait un petit peu le point sur l'état de la répression et discrimination syndicale en France. Mais surtout, bon, puisqu'il s'agit d'un observatoire, l'idée c'est d'essayer avant tout de mettre à jour une situation qui est peu connue, peu documentée hein, par la statistique publique en particulier. Et ce rapport a l'intérêt de faire une série de propositions, un nombre important de propositions, puisqu'il y a à peu près une quarantaine de propositions qui sont faites. Évidemment pour lutter contre les discriminations syndicales, mais également aussi pour demander à l'État de jouer son rôle et de produire de l'information statistique. Là, on traite aujourd'hui les inégalités, mais on a sur les inégalités un certain nombre de données. On en a parlé tout à l'heure, on va continuer à en parler. Il se trouve que sur les questions de répression syndicale, on a très peu d'informations, et c'est un peu le rôle que s'est assigné cet observatoire, de faire connaître, avec les informations dont on dispose, et de demander que de l'information soit produite sur ces questions, pour pouvoir mettre à jour donc ces questions. Voilà. Un petit peu sur ce sujet.
Merci.
Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'observatoire.
Merci Didier. Donc dans cette seconde partie de l'émission consacrée aux inégalités en Île-de-France, on voulait aborder un peu un aspect prospectif, c'est-à-dire que l'Île-de-France va vivre des grands changements, des grandes modifications, ou du moins c'est l'esprit des programmes qui sont en cours, et notamment le projet du Grand Paris. Donc on va s'interroger sur comment cette restructuration de l'espace francilien va avoir des conséquences en matière de réduction ou d'approfondissement des inégalités. Donc Richard Galissier, vous y travaillez à ce projet, ou du moins vous y réfléchissez. Peut-être dites-nous déjà en quoi va consister le Grand Paris pour que les franciliens un peu comprennent ce qui les attendent.
Alors, c'est un sujet qui qui est loin d'être simple. Alors, pour essayer de résumer, vous avez une loi qui s'appelle la loi MAPTAM, qui concerne l'ensemble de la France et qui vise à la mise en place de grandes métropoles, donc au niveau national, voilà, pour faire simple.
Paris, Lyon.
Voilà, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, voilà. Et donc, à Paris, bien évidemment, enfin, la région parisienne et l'Île-de-France, il y a forcément donc un statut et une façon de faire qui est particulière. Donc il y a eu un certain nombre de donc cette loi donc a été votée. Il y a une mission de préfiguration qui est en place. Donc il y a un préfet qui a été nommé avec une équipe de 20 personnes et qui travaille à la préparation de la mise en place de l'articulation de cette nouvelle métropole dans le cadre de la région Île-de-France.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que cette nouvelle métropole recouvrira du point de vue géographique le même espace que l'actuelle Île-de-France ?
Alors, non, justement. Donc, au départ, ce qui était prévu, c'était que c'était Paris plus les départements donc de la Petite Couronne, donc 92, 93. Et une partie, oui, et donc 94, mais donc ça donnait donc un premier ensemble, mais cet ensemble n'est pas fixe parce que il y a les communes limitrophes qui ont un droit d'option pour rentrer ou non dans Alors après, toute la question c'était de savoir comment ça s'articulait. Hein. Donc c'était de savoir si il y avait une grande métropole et puis que à l'intérieur ce qui était les différents territoires donc à l'intérieur enfin la répartition donc à l'intérieur perdait tout pouvoir et tout dépendait de la métropole, quelle était la part du pouvoir des territoires,
donc quel transfert de compétences,
voilà, quel transfert de compétences. Donc c'est toute cette question là qui est en cours donc de règlement, et qui est tellement en cours de règlement que dans la loi MAPTAM, il y avait un article 12 qui avait fixé un certain nombre de règles de fonctionnement, et que cet article 12 n'a pas été du tout accepté par les élus, et qu'on le rediscute, et qui va être revoté donc
au... Et que dit cet article 12 ?
Alors, l'article 12, il fixait, comment dire, c'est-à-dire qu'il enlevait toutes les compétences, je ne vais pas rentrer dans trop de
techniques, bien sûr.
Voilà, mais donc actuellement, vous avez donc en Île-de-France des agglomérations, et des communes et des agglomérations. Donc l'idée, c'était d'enlever toutes les compétences aux communes et aux agglomérations, de tout remonter à la métropole, et qu'après la métropole redescende les compétences, un peu, pas forcément qui intéressait, mais il y avait un jeu comme ça de monter et descendre donc des compétences.
Bon, c'était extrêmement... Donc ça, c'est pour la partie compétences.
Voilà, mais ça, c'est
le
terminé.
Grand Paris, c'est
voilà,
aussi,
ça va pas se passer.
Des grands projets.
Ça va pas se passer comme ça.
Non, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Et donc, on arrive finalement, et va être voté, à un système unique en France. Donc, on va créer quelque chose...
Pour l'Île-de-France.
Pour la région, qui est très particulier. C'est que dans la métropole, vous aurez ce qu'on appelle des EPCI. Donc, voilà.
Communes.
Voilà, donc des communautés communes. Et que la métropole va être une EPCI. Donc, vous aurez des EPCI dans une EPCI. Voilà. Bon, donc, unique. Donc, on va créer ça pour l'Île-de-France.
Mais quel est l'objectif, pour en quelques mots?
Tout ça, c'est des jeux de pouvoir et de savoir quelles compétences gardent les communes, les territoires et la métropole.
Et la métropole, sens Paris plus...
Voilà, plus les
trois départements.
Plus la petite couronne,
plus quelques communes qui adhèrent.
Alors, enfin bon, c'est là où je vous disais qu'on pourrait y faire deux heures donc d'émission, parce que c'est assez technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des choses, dont on sait que la compétence va être métropolitaine, et notamment, c'est celle du logement. Alors, on va en parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand enjeu pour la région, et je terminerai là-dessus, si vous voulez, c'est que, en fait, on crée une métropole qui va avoir 75% du PIB de la région.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et donc, vous allez avoir une deuxième couronne avec des grandes agglomérations, des pôles, donc effectivement, et que tout l'enjeu de la réforme actuellement, c'est de savoir comment va se passer l'équilibre donc entre les deux, d'une région administrative qui va continuer donc d'exister, hein, et l'équilibre entre la métropole et donc la deuxième couronne. En particulier, l'un des enjeux majeurs de cette réforme.
Alors, Mariette Sago, du coup, avec votre regard de géographe, est-ce que là, cette réforme, avec 75% du PIB dans cette métropole, est-ce qu'elle va, d'un point de vue territorial, aggraver les déséquilibres, ou est-ce
Bon, ce qui se passe actuellement quand on regarde l'évolution, en fait, c'est finalement, il va y avoir le cœur de la métropole, là où les inégalités sont les plus fortes.
Hein,
donc c'est justement, finalement, il va y avoir un cœur qui va vers une intégration. Ça sera à ce cœur-là, finalement, la métropole, de gérer les plus fortes inégalités. Par ailleurs, ensuite, il y a le rapport entre cette métropole et la couronne périurbaine. Actuellement, les tendances, c'est quand même que la couronne périurbaine, de plus en plus, le profit des populations qui sont accueillies, ce sont des populations aux revenus moyens.
Donc, on a moyen inférieur.
Oui, ça dépend.
Non,
parce qu'à l'ouest, ils sont quand même beaucoup plus aisés qu'à l'est et au fin fond de la Seine-et-Marne. Mais donc, c'est quand même la tendance, c'est quand même la pauvreté, elle diminue dans le périurbain. Donc voilà. Donc après, bon, c'est vrai qu'il y a un jeu d'équilibre.
Et paradoxalement, on n'est plus dans une situation où on a une pauvreté, parce qu'on a souvent l'image d'une pauvreté, d'une exclusion des populations pauvres des centres-villes, des centres urbains, vers plutôt les périphéries, vers les périphéries urbaines.
Oui, mais
ça,
là,
c'est vrai, mais c'est pas vrai pour l'Île-de-France.
Non, parce que
c'est
quand
vrai
même,
pour Paris, c'est vrai pour certains, pour certaines.
Ça dépend du tissu, du type de logement vous savez, le grande couronne, c'est de la maison individuelle, c'est 90%, c'est des propriétaires, voilà. Alors que le parc social est beaucoup plus concentré soit dans les villes, les grandes villes de la grande couronne, ou soit dans le centre de l'agglomération. Et aussi, il y a des logements, il y a tout le collectif dégradé aussi qui sert d'accueil pour les populations en difficulté.
Richard Galissier, le Grand Paris, est-ce qu'il a vocation à traiter ces inégalités? Est-ce qu'il les traite dans dans ses objectifs?
Alors, Mariette parlait de la question du logement. En fait, c'est la seule compétence, pour l'instant,
avec les transports ou
alors et encore non les transports alors les transports c'est compliqué non, ouais. C'est plutôt
non,
donc, au niveau régional
il y a cinq compétences en fait l'aménagement de l'espace, la politique de l'habitat, la politique de la ville, le développement et l'aménagement économique, social et culturel, et puis l'environnement et le cadre de vie. Voilà, ça, d'accord, c'est les compétences métropolitaines.
Ce qui veut dire que la solidarité ou la lutte contre la pauvreté n'est pas directement dans les compétences métropolitaines.
Voilà. Sauf qu'il y a la politique de la ville.
Pas non plus dans les compétences régionales, si j'ose dire. C'est une compétence qui reste à ce stade au niveau national.
Elle reste au département, et c'est bien d'ailleurs toute la complexité, parce que vous savez qu'il y a une loi NOTRe, deuxième loi fondamentale en ce moment, qui est en train d'être votée, qui est donc la nouvelle répartition donc des compétences nationales, et que l'avenir des départements est encore très, très, très incertain, et que donc tout ce volet de la solidarité, eh bien, on est dans l'expectative de ce que ça va devenir. Alors, bien sûr, ça va se faire, mais où, comment, et on sait très bien que quand il y a des déplacements de compétences, vous avez des pertes en ligne, sur les financements, sur un certain nombre de choses. Voilà, donc on est effectivement, les associations de solidarité, on est extrêmement soucieux de deux choses. À la fois, des financements, ça c'est une chose, mais à la fois de comment ça va se faire et si cette métropolisation et cet empilement, parce que globalement, il y a un empilement des structures et des compétences où on ne sait pas bien qui oriente, qui fait, comment ça va se passer concrètement pour les personnes. Bon, je vais prendre l'exemple du logement et peut-être que Mariette pourra rebondir parce que vous allez avoir un plan régional d'habitat, sur l'habitat et l'hébergement métropolitain. Voilà, ça c'est de la compétence qui est de fixer le cadre. Alors après,
il y a un autre au niveau régional.
Voilà. Donc il y en a un déjà donc au niveau régional. Il va y en avoir un donc au niveau métropolitain. Et alors après donc la question de qui fait quoi est en train de se clarifier. Bon, on a eu une réunion encore hier. On voit que ça commence à se dessiner, mais c'est pas encore voté. Il semblerait quand même qu'il y ait une remontée au niveau des territoires, c'est-à-dire des regroupements de communes, des PLU, c'est-à-dire des déterminations des grandes orientations, enfin concrètes.
Donc
pour les constructions. Voilà, mais on est encore, ça commence à se dessiner, mais en tout cas, là, notre commission donc au CESER sort une première alerte, notamment sur cet empilement, et notamment par exemple en matière d'hébergement, qui notamment est une compétence de l'État qui est déléguée, on ne sait pas trop comment ça va se faire, voilà.
D'accord, alors Marine Sago, est-ce qu'il n'y a pas une entrée du coup par la politique de la ville?
Alors oui, alors la politique de la ville, elle dépend pas de la région. Enfin, même si il y aura une la métropole va avoir en charge la politique de la ville, mais c'est quand même au départ menée par l'État. Et elle est elle aussi en plein bouleversement, en pleine refondation, puisqu'en ce moment là, il y a les nouveaux quartiers de la politique de la ville qui ont été annoncé il n'y a pas très longtemps sur les radios, sans doute sur la vôtre aussi. Et donc, on a divisé par trois le nombre de zones, de quartiers. On a 200 maintenant de nouveaux quartiers, dont 58 en Île-de-France. Et donc, tout se met en train de se remettre en place. Alors, il va y avoir dans le programme de rénovation urbaine va être prolongé avec le lancement d'un nouveau programme national de renouvellement urbain. Qui va être, alors là, la volonté, ça sera de mieux l'articuler avec le volet humain, à travers des nouveaux contrats de ville qui seront plus appuyés sur les communes, mais plutôt sur les EPCI, sur les communautés de communes. Donc il faut voir ensuite comment ça va s'articuler, ça aussi, avec les communes. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent essayer de faire en sorte, c'est que dans ces nouveaux contrats de ville, il y ait plus... donc qui est tous les partenaires, et notamment les départements aussi, la région, les services déconcentrés de l'État, mais aussi la société civile, donc les associations, les habitants des quartiers prioritaires et les acteurs économiques. Alors, ce qu'il y a, il y a un des axes qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, en général, les crédits qui étaient alloués au titre de la politique de la ville se substituaient aux crédits de droit commun. Donc là, maintenant, ils vont être bien séparés. Ça sera en plus.
D'accord. Ouais.
Qu'il y a aussi, ils veulent mettre plus l'accent sur la lutte contre les discriminations. Considère que ça n'a pas été assez mis en avant. Et puis, c'est donc cette idée aussi de co-construire des projets avec les habitants, ce qui n'est oui. pas dans la culture. Même on a, enfin, jusqu'à maintenant, ils ont essayé, mais ce n'est pas encore vraiment dans la culture française. Et donc, il y a toute une ingénierie à mettre en place et pour essayer de faire en sorte donc, que les habitants soient plus partie prenante et co-produisent les projets.
Ouais. Ouais. D'accord, ben, on va peut-être y revenir dans la dernière partie de l'émission. Alors, dans la rénovation urbaine, c'est vrai que le reproche qu'on fait souvent, c'est on rénove, mais en même temps, c'est souvent, ça permet d'accueillir des populations plus aisées et c'est repousser les catégories pauvres un peu plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a constaté ces dernières années en Île-de-France? Je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus.
Alors oui, il y a eu des travaux qui ont été faits sur justement comment s'est passé le relogement des populations. En général, c'est quand même dans les mêmes, en partie dans les mêmes territoires.
D'accord, hein.
C'est
ouais.
même commune ou un peu plus loin, mais c'est pas, c'est quand même, ça reste.
Ça reste proche.
Ouais, ouais.
D'accord. Ok, très bien. Donc, nous allons effectuer notre deuxième pause musicale de la soirée, et puis on se retrouve après pour la dernière partie de l'émission. Merci.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le père se lève le poing. Je peux rien faire, faire, je peux rien faire, spectateur du désespoir.
La vie de rêve, la vie du rêve, la vie de rêve.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, nous venons d'écouter I Am, né sous la même étoile. Donc l'émission Mode d'emploi est animée par la Fondation Copernic et consacrée aujourd'hui aux inégalités en Île-de-France. Et nous abordons la dernière partie de cette émission après avoir fait le constat que l'Île-de-France était un territoire où les inégalités étaient les plus importantes de France, qu'elles étaient plutôt en croissance malgré une pause ces dernières années. Et que bah, le Grand Paris, pour l'instant, ne prenait pas une direction qui semblait être celle de la cohésion et de la réduction de ces inégalités. Donc on peut s'interroger sur aujourd'hui quelles sont un peu les initiatives de lutte contre les inégalités qui s'agirait de mettre en place ou qui sont déjà en place et qui fonctionnent au niveau régional ou national. Donc Richard Galissier, peut-être un avis.
Alors, ce qu'on peut constater quand même, c'est que, notamment avec la mise en place du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, voilà, donc il y a quand même eu des choses de mise en place et un ton et certains principes qui ont un peu dénoté donc par rapport donc à ce qui se faisait donc avant.
C'est quoi la mesure emblématique par exemple?
Alors je vais vous donner 2-3 principes. D'accord. Par exemple qui étaient énoncés. Alors après on va juste revenir sur ce que devient ce plan, mais voilà. Ouais. Donc par exemple dans ce plan c'était très clairement énoncé qu'il y avait un principe de non stigmatisation des personnes, de participation des personnes à l'élaboration donc des politiques publiques, ouais. Le décloisonnement donc des politiques sociales, voilà. Ça c'était des principes qui étaient énoncés, qui étaient d'ailleurs salués donc à l'époque et qui ont été effectifs parce que vous prenez le plan pluriannuel quand ça a été élaboré, c'était quand même l'une des premières fois que des gens en situation de précarité et de grande précarité étaient associés physiquement aux discussions.
D'accord.
Accompagnés par les associations qui les connaissaient, mais c'était quand même une grande première. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que Malheureusement, mais avec la difficulté et l'acuité des problèmes économiques, le plan il est un peu passé, il est plus dans les priorités premières, on va dire, et donc il est quand même moins présent et moins actif que au départ. Ça c'est le constat qu'on fait.
Oui, on pourrait quand même ajouter néanmoins que c'est vrai qu'il y a eu un changement de ton, hein, vous l'avez indiqué. Par rapport à, je dirais, au mandat précédent, enfin, tel qu'était, les propos par exemple qui avaient été évoqués sur l'assistanat, cancer de la société, enfin, on voit bien le changement de ton évident. Mais néanmoins, dans ce plan, on n'a pas vu de choses particulièrement fortes. On aurait pu espérer, par exemple, une augmentation du RSA substantielle. Je sais que le collectif Alerte, dont vous faites partie, l'avait demandé. Ça n'a pas été fait. Enfin, sur les choses un peu lourdes, on aurait peut-être pu espérer quand même un petit peu plus.
Effectivement. Mais enfin, c'est en cours et on espère que ça va bouger. En tout cas, il y a un certain nombre de préconisations, effectivement, comme l'augmentation donc du RSA. Mais au-delà de ça, quand vous demandez des solutions, et je vais quand même souligner trois points peut-être. Bon, le premier, c'est qu'il faut quand même savoir que il y a un taux de non-recours sur les prestations sociales qui est extrêmement important. Le non-recours, c'est quoi? Vous avez une disposition qui existe. Je prends le RSA, donc activité seule, c'est une disposition qui existe. Vous avez un taux de non-recours de 68%. Donc, vous faites la différence. D'accord. Ça veut dire que vous avez 68% des personnes qui ont droit, qui ne le prennent pas.
Donc, le RSA activité, vous nous dites un petit peu, c'est les personnes qui travaillent, mais qui pourraient bénéficier pour un salaire ou un revenu insuffisant.
Qui ne le font pas. De plusieurs raisons. Enfin, deux principales. C'est trop compliqué. C'est une galère pas possible pour les monter. Et la deuxième, c'est que quand vous le faites, vous êtes stigmatisé. C'est-à-dire que, lui, il touche le RSA, c'est un assisté, c'est un pauvre. Donc, deuxième axe majeur, et ça, on est extrêmement actifs sur ce sujet. Et d'ailleurs, si vous avez vu l'actualité récente, il y a une étude au Sénat qui vient de sortir sur les différentes discriminations, qui vient de sortir parce qu'on demande à ce que la discrimination pour cause sociale soit reconnue. Donc, la lutte contre les discriminations est facteur de lutte contre la pauvreté. Parce que les gens, les personnes, quand vous êtes en situation de grande exclusion, eh bien, vous n'allez pas faire un certain nombre de choses de peur, donc, de vous faire stigmatiser. Et la troisième chose, et on pourrait en donner d'autres, c'est vraiment l'impérative nécessité d'associer les personnes sur les sujets qui les concernent. Alors il y a des expériences qui sont en cours, notamment ATD donc a été sollicité par le préfet du 93 et on teste, on met en place une expérience dans une ville de mise en place des conseils donc consultatifs de quartier. Où on fait avec les plus démunis et on travaille avec des élus, donc là il y a une expérience qui démarre parce que le mouvement a une expérience dans faire travailler des gens ensemble de manière très diverse, et cette démarche, on n'est pas les seuls à le faire, mais cette démarche est absolument essentielle pour que des gens se remettent debout et sortent de ce qu'on appelle donc l'assistanat tel qu'on veut bien les dire, alors que la réalité est tout autre.
D'accord, oui. Mariette Sago, peut-être un mot sur...
Je vais en dire deux, si vous voulez.
Allez-y.
Parce que j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit.
Allez-y, on vous écoute.
Parce que la participation et puis la lutte contre les discriminations, c'est deux axes qui ont été retenus aussi, qui ont été pointés par un rapport qui a été remis au ministre délégué chargé de la ville en juillet 2013 sur une réforme radicale de la politique de la ville qui était sous-intitulée « Ça ne se fera pas sans nous ». Donc ça, je pense que c'est assez... ça illustre bien que c'est que cette question de participation, elle est très importante de coproduction et d'être là dans les instances de décision et d'être même dans la codécision, qu'intervient la codécision. Et puis il y a ces histoires de discrimination qui sont effectivement contre les, enfin, lutter contre les discriminations vis-à-vis des personnes pauvres, mais aussi vis-à-vis des personnes immigrées ou d'origine immigrée, puisqu'en Île-de-France, c'est quand même 40% des immigrés qui vivent en France qui sont en Île-de-France. Donc, c'est une question très, très importante. Mais alors, moi, ce que j'aimerais pointer aussi, c'est l'importance des politiques de redistribution, parce que, et qui impacte aussi sur les inégalités entre les territoires. Et qui est un bel amortisseur, enfin, toutes ces politiques de redistribution. Donc, c'est-à-dire, d'une part, la redistribution, elle se fait dans, de deux façons. En tout cas, d'une part, donc, il y a les prestations qui sont versées, prestations familiales, minima sociaux, les allocations logement. Et puis, par ailleurs, il y a tout ce qui est transfert. Donc, les prélèvements, pardon, l'autre partie, c'est les prélèvements. Donc, et le plus important, ce sont les impôts sur les revenus. Donc, en fait, cet effet de la redistribution, pour vous donner un chiffre, elle diminue de moitié les écarts de niveau de vie entre les plus riches, les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Donc, c'est quand même énorme. Et un autre exemple, le taux de pauvreté en France, avant transfert, il est de 24%. Après transfert, c'est 14%. Donc, ça diminue de 41%. C'est un peu plus qu'en moyenne en Europe. Donc, c'est ce qui permet aussi d'amortir les effets de la crise. Et voilà, même si on sent qu'il y a un essoufflement de cet appareil, parce qu'il y a de plus en plus de chômeurs qui arrivent en fin de droit, et donc il y a moins de prestations, et voilà. Donc là, il y a un petit souci avec Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être pour finir, c'est sur les inégalités, les répercussions sur les inégalités territoriales, parce que finalement, c'est des effets redistributifs. Il baisse les revenus des Parisiens de presque 7%, et en contrepartie, il augmente ceux de Seine-Saint-Denis de presque 9%. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des répercussions au niveau des territoires.
D'accord. Ouais, ce que vous dites, je crois, effectivement, est d'autant plus intéressant que si on regarde, malheureusement, les derniers chiffres dont on dispose, les enquêtes qui ont été menées ces derniers temps sur comment les Français regardent la protection sociale. Je pense en particulier à une enquête du Crédoc qui est sortie il y a quelques semaines de cela, qui montre que pour la première fois depuis maintenant de nombreuses années, on est dans une tendance inverse à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Je dis autrement, jusqu'à maintenant, en période de crise, globalement, l'opinion française était plutôt favorable à la mise en place de politiques d'aide aux plus pauvres, aux plus démunis, sous le thème, évidemment, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de travail, donc c'est normal qu'on puisse aider à un moment donné en crise de crise les plus pauvres. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que, et ça malheureusement c'est ce que montre l'enquête de manière très 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 précise depuis en gros 2008, donc sur les quatre dernières années, on est exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'à la fois on a un chômage qui augmente, on a une pauvreté qui augmente, on l'a dit, et en même temps on a une acceptation de la protection sociale qui est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, une majorité maintenant de Français explique que peut-être que la protection sociale ça pose problème.
Ça commence à bien faire.
Voilà, ça commence à bien faire.
Je pense qu'il y a le climat morose qui doit jouer, et puis
ça rejoint tout à fait ce qu'on disait en début d'émission sur la perte de lien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une perte de solidarité. Alors bon, ce qui est très troublant d'ailleurs.
C'est la proximité qui fait la solidarité.
Oui.
Quoi, c'est...
Mais là, ce qui est très troublant, et ça, quand on travaille ou qu'on vit donc avec les personnes donc les plus démunies, c'est souvent là d'ailleurs où les solidarités sont les plus grandes. Voilà, c'est-à-dire que entre personnes très démunies, je veux dire, on est toujours extrêmement frappé de la générosité et de la solidarité donc entre les personnes. Néanmoins, au niveau global, il y a un durcissement, il y a un repli, hein, et c'est tout à fait ce que vous décrivez, il faut travailler. Et là, je pense que le monde associatif a beaucoup à apporter. Mais parce que ça se décrète pas.
Peut être aussi un effet l'augmentation de la fiscalité aussi qui frappe plus les classes moyennes. Voilà, c'est conjonction du prolongement de la crise, de l'impression d'être de devoir payer plus. Voilà, je pense qu'il y a des effets.
Mais c'est vrai que du coup, ce que vous dites là, on voit aussi l'intérêt, et vous devez le voir en tant que géographe, mais de conserver cette mixité sociale, cette proximité entre de pas à ce que les différentes classes ne vivent pas séparées.
En même temps, chaque territoire a a une fonction propre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La Seine-Saint-Denis, voilà, c'est aussi le marquage maintenant des classes aisées. Elle se fait plus par la consommation. Tout le monde a son téléphone portable. Maintenant, elles se font de plus en plus par le lieu de résidence. Donc, c'est compliqué d'aller contre ça. Donc, ensuite, tous les territoires ont leur fonction et c'est ça qu'il faut faire en sorte qu'elles soient reconnues. Et dans la métropole, la Seine-Saint-Denis a une fonction particulière qui doit être reconnue. La métropole, elle fabrique en fait ces zones d'exclusion et il faut faire attention au moment où il y a des décrochages, quoi. Donc il faut comprendre pourquoi il y a des décrochages à des endroits pour pouvoir intervenir. Et là, la métropole, elle doit avoir un rôle à jouer. Parce que tout ça, c'est systémique, quoi. C'est ce qui se passe en Seine-Saint-Denis dépend aussi de ce qui se passe ailleurs en Île-de-France.
Très bien, mais je vous remercie. Donc c'était le mot de la fin. L'émission est finie. Vous pourrez la réécouter en podcast sur le site de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, ou la réécouter mercredi prochain à 7h du matin. Le prochain numéro, donc ce sera le vendredi 23 janvier. Entre-temps, passez un bon réveillon. Et puis, on se quitte avec PJ Harvey, Send His Love to Me.